Chapitre 15. Pendant que M. Cloarec s'éloignait avec Onésime, le Goffin, debout et immobile sur la terrasse du jardin, endroit élevé d'où l'on découvrait la mer, braquait obstinément une vieille longue-vue recouverte en chagrin vert sur un objet qui semblait absorber toute son attention et exciter au plus haut degré sa surprise et sa curiosité. Cet objet était un brick, que l'on apercevait encore au loin, à travers la large échancrure des falaises. Mais comme ce bâtiment louvoyait depuis quelque temps, d'un moment à l'autre il devait, en poursuivant sa manœuvre, échapper au regard de Le Goffin, tandis qu'il s'abandonnait au monologue suivant. « C'est incroyable. Est-ce un rêve? Est-ce lui? Oui, ce doit être lui. Voilà bien sa mâture, sa voilure, son air, sa démarche enfin. Et pourtant non, ce ne peut être lui. » Ce n'est pas là sa coque, sa façon. Avec sa batterie barbette, il était bas sur l'eau comme une baleinière, tandis que celui-ci vous a des bastingages d'une hauteur ridicule, impossible. Et puis enfin, je ne lui vois pas un sabord. Pas le moindre petit canon ne montre le bout de son nez. Non, non, ce n'est pas lui. Est-ce que cette peinture d'un gris de perruquier avec une lisse jaunâtre, ce qui est du plus piteux effet, a le moindre rapport avec cette peinture noire à lisse écarlate qui vous était d'un effet si crâne et si marin? Encore une fois, ce n'est pas lui. Cependant, cette mâture démesurée, si gaillardement inclinée sur l'arrière, ce gréement fin comme des fils d'araignée, il n'y a au monde ou au diable que le tison d'enfer capable de porter une pareille mâture, qui lui donne la rapidité d'un aléon. Michel-Ange, je suis. J'ai un excellent moyen de m'assurer de l'identité que je cherche à constater. Ainsi qu'aurait dit M. Yvon lorsqu'il servait dans les robes noires et qu'il se délectait à jeter des présidents par les fenêtres. C'est bien facile. Le voilà qui vire de bord. Je vais être certain de... Le Goffin fut interrompu dans son soliloque et dans ses observations nautiques par une tape qu'on lui donna familièrement sur le bras dont il tenait sa longue vue. Il retourna vivement la tête, fort contrarié de cette inopportune agacerie, et se trouva face à face avec Suzanne. Dans sa préoccupation, il ne l'avait pas entendu approcher. « Ce qui est fait, mais que le diable vous emporte, ma chère, de venir me déranger ainsi, » dit le commis, ou plutôt, avouons-le, le maître canonnier de M. Cloarec, en reprenant plutôt sa longue-vue et cherchant son point de mire. Malheureusement, il était trop tard. Le brick avait viré de bord et disparu. Ainsi devenait impossible la constatation d'identité dont Le Goffin s'était flatté. « Comment? Que le diable m'emporte? Grossier que vous êtes !» reprit Suzanne. « Tel est le bonjour que vous me souhaitez. Entre vieux amis comme nous, la franchise est un devoir, » reprit Le Goffin en jetant sur la mer un dernier regard de regret, et en faisant rentrer les uns dans les autres les tubes de sa longue-vue. J'étais là, m'amusé à voir passer les petits bateaux qui vont sur l'eau, comme je chantais dans mon jeune âge. Et vous venez m'interrompre. Vous avez raison, la franchise est un devoir entre nous, Le Goffin. Aussi je vous dirais que jamais sourd n'a dormi d'un sommeil plus insolent que le vôtre. Qu'en savez-vous? Malheureusement pour moi et pour vous, Suzanne, vous n'avez jamais été à même de voir de quelle manière je dors, répondit le maître canonnier d'un air gaillard, et surtout de voir de quelle manière. Je ne dors point, ma chère. Vous vous trompez, car hier soir j'étais frappé à votre porte. Enfin ! S'écria le Goffin en faisant papilloter son œil unique d'un air étrangement libidineux et triomphant. Je vous avais bien dit, moi, que vous y arriveriez, et vous y êtes arrivé. À quoi ? Reprit la gouvernante, sans vouloir comprendre l'audacieuse pensée de son compagnon. « À quoi suis-je arrivé ?»« À venir Seulette, sur la pointe du pied et sans chandelle, pour me compter fleurette, et me lutiner dans ma chambrette. »« Monsieur Le Goffin, vous êtes un impertinent !»« Je vous jure, ma chère, que je serai discret, et que sans ce sommeil de plomb, vous eussiez été reçu, ah, mais reçu comme la reine des amours, et je vous promets qu'une autre fois... » Comme vous êtes à moitié fou et aussi borgne de l'esprit que du corps, je ne fais pas attention à vos sottises. Je veux seulement vous dire que j'étais allé frapper à votre porte pour vous demander des secours. Et des secours contre qui? Mais quand vous êtes poltron comme un lièvre, vous êtes tenu quoi, feignant de dormir et vous gardant bien de me répondre? Voyons, Suzanne, sérieusement, que s'est-il passé cette nuit? Est-ce que vraiment vous avez cru avoir besoin de moi? Ça m'eût avancé à grand-chose. Oh mon Dieu, l'on aurait beau mettre la maison à feu et à sang. Tant pis, M. Le Goffin se trouve bien dans son lit, qu'il y reste. La maison à feu et à sang, encore une fois, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette nuit, deux hommes ont tenté de s'introduire ici, rien que cela. Allons donc, ma chère, vous rêvez tout éveillé. Deux hommes ont tenté de s'introduire ici, par ce seau de loup devant lequel nous sommes. Entendez-vous, Le Goffin? Un instant, ils étaient deux? Oui. Ils ont tenté de s'introduire ici? Par ce seau de loup, vous dis-je. Je sais ce que c'est, ma chère.
Comment?
C'était deux de vos amoureux, Le Goffin. Ils avaient eu sans doute de votre part erreur de date, ou double emploi dans vos circulaires, et alors...
Le maître canonnier s'interrompit brusquement et n'acheva pas sa mauvaise plaisanterie. Ses traits, ordinairement impassibles, prirent soudain une indicible expression de stupeur d'abord, puis de crainte et d'anxiété. Le changement de ses traits fut si subit, si frappant, que Dame Robert, oubliant les impertinences de son compagnon, s'écria
« Mon Dieu, Le Goffin, qu'avez-vous? Que regardez-vous donc ainsi ?»
Et suivant la direction de l'œil du vieux serviteur, elle vit s'avancer du fond d'une allée qui conduisait à la terrasse un nouveau personnage que précédait la peureuse servante. L'avenue de ce personnage causait la stupeur et l'effroi du maître canonnier. Cependant, tant s'en fallait que ce nouvel arrivant eût un aspect terrifiant. C'était un gros petit homme, trapu, à ventre saillant. Il portait un superbe habit bleu barbeau, une culotte de casimir noisette, des bottes à revers, et un long gilet blanc au-dessous duquel se balançaient deux chaînes de montre en or, garnies de volumineuses breloques en graines d'Amérique. Ce personnage tenait d'une main une petite badine, dont il secouait cavalièrement la poussière de ses bottes, et de son autre main, il tenait son chapeau qu'il avait galamment ôté de loin à la vue de Dame Robert. On pouvait ainsi admirer l'élégant et léger crépé de sa coiffure, poudré à blanc, ainsi que ses épais favoris coupés en croissant. La blancheur de la poudre faisait ressortir davantage encore la couleur empourprée de la rubiconde et large figure de ce personnage. Figure et coiffure que le maître canonnier s'était souvent plu à comparer ingénieusement à une grosse framboise à demi saupoudrée de sucre blanc. Mais à ce moment, Le Goffin, loin de songer à plaisanter, éprouvait une frayeur qui augmentait pour ainsi dire à chaque pas que faisait à son encontre l'homme à la tête poudrée et aux bottes à revers. Ce digne homme, nommé Floridor Verduron, était l'armateur du brick, le tison d'enfer, ordinairement commandé par le capitaine l'Endurci. Or, jusqu'à cette époque, et pour des motifs que l'on comprend de reste, Cloarec avait caché son véritable nom à son armateur, lui ayant laissé surtout ignorer dans quel endroit il allait se reposer ensuite de ses croisières. Un ami commun servait d'intermédiaire à la correspondance du capitaine et de M. Floridor Verduron. On conçoit l'effroi du maître canonnier. Il songeait que, ayant sans doute connaissance de la demeure et du véritable nom du capitaine corsaire, mais dans son ignorance du double rôle que jouait M. Cloarec, l'armateur, dès ses premiers mots, allait révéler sans penser à mal un secret de la plus grave importance. La présence de l'armateur expliquait aussi en partie l'arrivée du brick que Le Goffin avait cru reconnaître quelques moments auparavant, sous une espèce de déguisement dont il ne pouvait deviner le mystère. Pendant ces désolantes réflexions du maître canonnier, M. Floridor Verduron s'était approché de plus en plus, tandis que Suzanne disait au vieux serviteur « Quel peut être ce monsieur? Est-il rouge de figure? Je ne l'ai jamais vu ici. Mais répondez donc, Le Goffin, mon Dieu! Quel air singulier vous avez! En vérité, vous êtes encore plus blême que de coutume. C'est la rougeur de ce gros homme qui me fait paraître ainsi, ma chère, dit notre homme en se voyant en face d'un danger qu'il ne savait comment conjurer. La servante, qui précédait l'armateur de quelques pas, dit à Suzanne « Dame Robert, c'est un monsieur qui vient voir notre maître pour affaires très importantes. Vous savez bien que monsieur est sorti. »
C'est ce que j'ai répondu à ce monsieur. Mais il a dit qu'il m'attendrait, car il fallait absolument qu'il voie notre maître. Alors je voulais amener pour qu'il s'explique avec vous. »
Thérèse finissait d'expliquer ainsi l'avenue de monsieur Verduron, lorsque celui-ci, qui savait son monde, se piquait de bonne compagnie, et avait été cité dans son bel âge comme un coryphée du menuet, s'arrêta à 5 pas de dame Robert. Il fit un premier et profond salut, ses bras gracieusement arrondis, les coudes en dehors, ses talons exactement joints et ses pieds formant le V. Dame Robert, flattée de ce respectueux hommage rendu à son sexe, riposta par une cérémonieuse révérence en disant tout bas à Le Goffin, d'un air de récrimination sardonique,
« Apprenez, par cet exemple, comment un galant homme doit aborder une femme. »
J'ai, mordieu, bien abordé autre chose, ainsi que va malheureusement le dire cet animal d'armateur, murmura le maître canonnier entre ses dents et en rongeant ses ongles de désespoir. Monsieur Floridor Verduron, s'avançant de 2 pas, accomplit sa seconde salutation. Suzanne y répondit par une nouvelle révérence, en disant tout bas à Le Goffin pour le vexer et le piquer d'émulation. « Ce sont vraiment des façons de grand seigneur, d'ambassadeur. » Le maître canonnier, au lieu de répondre, s'effaça le plus possible derrière le feuillage d'un arbre vert, comme s'il avait pu échapper au danger en l'ajournant. Le troisième et dernier salut de l'armateur, les 3 saluts étaient de rigueur, fut trop semblable aux 2 premiers pour mériter une mention particulière, et il alla enfin s'adresser à Suzanne lorsqu'il aperçut le maître canonnier.
« Tiens, tu étais là !»
lui dit l'armateur en lui faisant un signe de tête des plus affectueux.
« Je ne t'avais pas aperçu, vieux loup de mer !»«
Pouh !» reprit le Goffin, croyant sourire tandis qu'il ne faisait qu'une horrible grimace. « S'il en était loup marin, parce qu'on habite sur la côte, madame, » il montra Suzanne,
« serait à ce compte une loup marine. »«
Toujours plaisant !»
répondit l'armateur.
« Et ton œil, mon pauvre garçon ?»«
Comme vous voyez, mon bon monsieur Verduron, je n'y vois plus. Mais ne parlons pas de cela, je vous en supplie. Ne parlons pas de cela, j'ai mes raisons. »«
Je le crois bien, mon pauvre vieux.
Car en vérité, c'est jouer de malheur, n'est-ce pas, madame ?» dit l'armateur en s'adressant à Suzanne.
« Perdre ainsi un œil d'un coup de pique. »«
Comment ?» s'écria dame Robert en regardant le Goffin avec ébahissement.
« Comment un coup de pique ?»«
C'est un calembour, »
reprit héroïquement le maître canonnier, avec une grimace encore plus compliquée que la première.
« Monsieur Verduron, qui est très drôle, appelle l'atout que j'ai reçu à l'œil un coup de pique, parce que j'ai beaucoup de cœur, mais que malheureusement je n'ai pas eu garde à carreau avec ce gueux d'opticien de Lyon. »
Ces derniers mots, seulement à l'adresse de Suzanne, furent prononcés si bas qu'elle seule les entendit, et d'ailleurs l'armateur s'étourdissait lui-même en riant à gorge déployée des calembours atroces qu'une position désespérée inspirait au malheureux Le Goffin.
Ah, parbleu, je ne le croyais pas si fort que cela.
C'est qu'il est très plaisant, n'est-ce pas, madame ? Disait M. Verduron. Il n'y a que lui pour trouver cela.
Un coup de pique, un atout. Il a beaucoup de cœur. Et il n'a pas eu garde à carreau, et c'est très plaisant, très plaisant.
Le fait est, monsieur, reprit dame Robert, qui trouvait le jeu de mots exécrable, mais qui, heureusement, ne pensait plus au coup de pique, ainsi expliqué. Le fait est que monsieur Le Goffin, avec son air sérieux, est un pince sans rire, comme on dit, et s'il n'est pas plaisant, ce n'est pas, du moins, l'intention qui lui manque. Mais, monsieur, la servante vient de m'apprendre que vous désiriez parler à M. Cloarec pour affaires pressantes.
« Oui, belle dame, très pressante, » reprit galamment l'armateur.
« C'est sans doute à madame son épouse que j'ai l'honneur de parler. Dans ce cas, je...
Pardon, monsieur, je ne suis que la gouvernante de Mademoiselle Cloarec. »
« Comment le cap... » Cette première syllabe du mot capitaine n'était pas sorti de la bouche de l'armateur que le maître canonnier s'écriait soudain de tous ses poumons en frappant brusquement sur le bras de Suzanne.
« Ah non d'un petit poisson ! Regardez donc, voyez donc !»
La gouvernante fut si saisie et de l'éclat de voix et du geste de Le Goffin qu'elle jeta un cri perçant et n'entendit pas même la syllabe si redoutée prononcée par l'armateur. Aussi, à peine remise de cette alerte, elle dit au vieux serviteur avec beaucoup d'aigreur,
C'est insupportable. Vous m'avez fait une peur horrible. J'en suis toute tremblante. »
Mais regardez donc là-bas, reprit le maître canonnier en étendant son long bras dans la direction des falaises.
C'est à n'y pas croire. Ma parole d'honneur, c'est surnaturel.
Quoi donc ? Dit l'armateur en suivant des yeux la direction indiquée par le Goffin.
Que voyez-vous donc ?
Non.
L'on m'aurait juré que cela était possible,
reprit notre homme,
que j'aurais donné ma tête à couper que cela ne pouvait pas être.
Mais quoi donc ? Reprit Suzanne, qui malgré sa mauvaise humeur sentait sa curiosité s'éveiller.
De quoi parlez-vous ?
Ça tient du prodige, poursuivit le maître canonnier avec une sorte d'accablement admiratif.
C'est à se demander si l'on veille ou si l'on rêve.
Encore une fois, qu'y a-t-il ? S'écria l'armateur, non moins impatienté que la gouvernante.
De quoi parlez-vous ? Où faut-il regarder ?
Tenez,
dit le Goffin, imperturbable, vous voyez bien cette falaise à gauche.
À gauche ?
Dit ingénument l'armateur.
À gauche de quoi ?
Parbleu, à gauche de l'autre, fit le Goffin.
Quel autre ?
Demanda Suzanne à son tour.
Quel autre ?
Mais comment quel autre ? Reprit notre homme. Vous ne voyez pas là-bas cette grande falaise blanche qui a l'air d'un dôme ?
Si, je la vois, dit l'armateur.
Eh bien, après ? Ajouta Suzanne.
Vous ne voyez pas, là, tout à fait en haut ?
Tout à fait en haut, le Goffin ?
Oui, sur le côté.
Sur le côté ?
Oui.
Vous ne voyez pas comme une espèce de lueur bleue ?
Une lueur bleue ?
Répéta l'armateur en écarquillant les yeux et mettant sa main gauche au-dessus de ses sourcils en guise d'abat-jour.
Une lueur bleue sur la falaise ?
Oui, là-bas, et même, tenez, ah non d'un petit poisson, la voilà qui devient rouge ! S'écria le Goffin.
Voyez-vous ?
Hein ?
Et c'est étonnant, étourdissant.
Mais venez, monsieur Verduron, allons voir la chose de près. Ajouta le Goffin en saisissant l'armateur par le bras et cherchant à l'entraîner.
« Venez, venez !»«
Un instant, donc !» reprit M. Verduron en se dégageant des mains du maître canonnier.
« Pour voir la chose de près, il faudra d'abord l'avoir vue de loin. Et du diable, si je vois quelque chose. Et vous, madame ?»«
Je n'aperçois rien de rien, monsieur. »
Le Goffin eut peut-être tâché de prolonger l'illusion de ses victimes et de leur en faire voir encore un cyclon dit de toutes les couleurs, mais l'approche d'un nouveau danger vint éteindre sa verve d'invention. À deux pas de lui, il entendait la voix de Sabine. En effet, n'apercevant pas M. Verduron caché par le Goffin et Suzanne, la jeune fille accourait, disant à sa gouvernante « Que regardes-tu donc là, ma bonne Suzanne ?»«
Mademoiselle Sabine !»
pensa le Goffin avec désespoir. « Tout est perdu. Malheureuse enfant, cette révélation peut la tuer. »